Hiver et contre tout.
Radio Campus Paris vous invite à sa soirée de fin d'année, mardi 16 décembre.
Au programme,
une émission littéraire collaborative,
un karaoké.
Mais c'est quoi un karaoké?
Bah enfin, un karaoké diffusé à la radio.
Et un marché de créaturistes pour vos emplettes avant les fêtes.
Avec, côté émission,
la nouvelle bouquinerie,
le temps des chouquettes,
la relève,
la librairie des étudiants.
Et côté marché,
des bijoux,
du crochet,
des perles
et la friperie solidaire Uria.
Venez fêter avec nous le 16 décembre de 19h à 22h30
à la cantine pas si loin,
34 rue Cartier-Bresson à Pantin
et sur le 93.9 FM.
Et c'est l'émission spéciale de Noël, hiver et contre tout. On est à la cantine pas si loin à Pantin, c'est Mireleux et
Christophe, bonsoir.
Ce soir, on reçoit Christophe, je te laisse annoncer nos invités.
Oui, bienvenue pour ce Hors les murs spécial de Radio Campus Paris en direct et en public jusqu'à Ola, au moins 20h30, voire plus si affinité. L'émission s'appelle Hiver et contre tout. Même si je ne suis pas responsable de ce calembour digne des plus grands, eh bien, je l'approuve et je pense pouvoir l'expliquer. Hiver, parce que c'est l'hiver dans 5 jours, puisqu'elle commence le 21 décembre. Et contre tout, parce que le froid menace et que si vous restez à la maison avec un plaid et un bon lit, vous êtes paré contre le rhume. Donc pendant les 90 minutes ou plus donc qui viennent, on va vous donner plein de bonnes raisons de rester à la maison, de lire, d'écouter de bons livres. Nous sommes en direct depuis la cantine, pas si loin, à Pantin. On les remercie de nous accueillir ce soir. À la réalisation, il y a Thomas. Alors, pendant, on va parler ce soir de littérature avec, de ton côté, Mireleux.
On va parler de Julia Lepère, La mère et son double, un premier roman de la poétesse et dramaturge dont on va vous parler. On va l'accueillir tout à l'heure. Elle sera par téléphone parce que malheureusement, elle est malade.
On a avec nous maintenant tout de suite Johanna Luyssen, qui est l'autrice des Fragments d'Hélène publiés aux éditions Julliard. Et puis Arbon, bonsoir. Bonsoir madame, pardon.
Bonsoir.
Je suis dans mon truc, là, je suis parti. Je suis sur les rails. Et Arbon, bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Vous êtes l'auteur des Derniers jours de Hariri Yuan. Et un peu plus tard, on aura comme invité Théo Frilé, un acteur qui lit des livres. Qui lit des livres au sens où il les enregistre et vous pouvez qu'il fait des livres audio. C'est peut-être un peu plus clair comme ça. Alors, Johanna Luyssen, vous avez écrit Les Fragments d'Hélène. Tous les deux, juste avant de commencer, est-ce que l'hiver est pour vous une saison parfaite pour lire, pour rester à la maison? Coucouner, pour vous, ça veut dire lire, bouquiner?
Ouais, ça veut dire... Moi, j'aime bien l'hiver, déjà parce que je suis éco-anxieuse, donc l'été, ça me stresse. et même si l'hiver est trop doux, en vrai, et moi j'aime bien le côté, j'aime bien bouquiner à la maison, j'aime bien rester à la maison, j'aime bien l'hiver, j'aime bien les boissons chaudes, j'aime bien tout ça.
Le plaid, ouais. Ça vous allait ce soir?
Ah oui, très bien.
On n'en a pas. Hein. Et voir bon
moi aussi j'aime bien l'hiver, je trouve qu'il fait plus assez froid là.
Vous trouvez que l'hiver n'est pas assez rude là?
J'aime bien quand il fait froid, j'aime bien les saisons où ils sont marqués. Celle-ci est un peu, pour l'instant, un peu timide.
Et l'hiver, c'est plus un moment pour lire, pour écrire, pour vous, l'un et l'autre? Il y a quelque chose qui est lié au fait que la nuit tombe plus tôt, quelque chose de plus littéraire?
Oui, il y a un repli. Moi, je ne sais pas, j'ai vécu à Berlin pendant 4 ans où il fait nuit à partir de l'automne. Là, il fait nuit à, je sais pas, 15-16 heures. Et en fait, on est plongé dans une espèce de nuit pendant des mois et en fait, on se retrouve vachement. Enfin, moi, je trouve ça c'est très propice à l'introspection, à des moments un peu à soi, quoi.
Ouais. Pour ça, je vous conseille Elzinski. Hein, il fait nuit à 15h en ce moment.
Oui.
Pour y être allé une fois en hiver, c'est assez terrible. Allez, on va parler avec vous d'Hélène Rittmann, l'épouse du philosophe Louis Althusser, qui en tout cas l'étrangla et qui est un peu restée dans la mémoire collective comme la fin de son assassin. On va essayer de ne pas trop répéter son nom. Pour commencer, je voulais vous demander, Johanna Luyssen, pourquoi elle, pourquoi vous? Vaste question.
C'est une très vaste question. C'est important parce que pourquoi écrire sur cette femme, effectivement. En fait, je le raconte au début des Fragments d'Hélène. En fait, il y a 20 ans, moi, je vais avoir 43 ans. Il y a 20 ans, quand j'étais étudiante, je suis tombée sur ce nom. Et en fait, et c'est tout le drame de cette femme, c'est que je ne suis pas tombée sur son nom. On l'a appelée comme la femme d'eux. Et il n'y avait pas son nom en vrai, c'était la femme du philosophe fou qui l'avait étranglée, puisque en fait Hélène Rittmann, elle a fini sa vie le 16 novembre 1980. Elle a été étranglée donc par son époux dans les locaux de l'école normale supérieure où il avait un logement de fonction. Et très vite, on l'a réduite à sa mort et à son époux et à son assassin. Et donc moi, la première fois que j'ai entendu parler d'elle, en vérité, c'était pas vraiment d'elle dont il était question, c'était lui évidemment. Et aussi, à l'époque, parce qu'on est quand même des années avant MeToo, on est quand même dans une période où c'est pas forcément très simple de formuler une espèce de prise de conscience féministe que j'avais pas nécessairement à l'époque, qui était pas très bien encore crantée, quoi. On me parle de cette affaire, de cette histoire, et puis y a rien d'autre. Et puis quelque part, je le mets dans un coin de ma tête en me disant c'est problématique, mais je sais pas tellement quoi en faire. Mais ça reste là, et notamment parce que la grande blague qui faisait rire les gens à l'époque, c'était le jeu de mots « Althusser trop fort » puisqu'il l'avait étranglé. Et je suis choquée par cette blague, et en même temps, je sais pas quoi faire de tout ça, mais ça me reste vraiment comme un truc un peu sur l'estomac, quoi.
À l'époque, vous êtes déjà journaliste à Libération ou pas du tout ?
Pas du tout. Je suis étudiante en journalisme, et on me parle de ça. Et je me dis, bon, je garde de côté, mais je me dis, il y a quand même un truc qui va pas, quoi. Et quelques années plus tard, je retombe sur cette histoire, mais pour le coup, je travaillais vraiment sur les féminicides. Et j'en parle avec, à l'époque, une ministre dédiée à l'égalité femmes-hommes, qui était Laurence Rossignol, donc on est en 2017, gouvernement Hollande, et elle me dit, cette blague horrible, et elle me redit, Althusser trop fort, en disant, regardez cette blague horrible, ça montre la complaisance qu'on avait pour les féminicides et qui existe encore. Et je me dis, mais ouais, cette blague, elle est horrible, et cette histoire, elle est affreuse, et donc elle me revient un peu en boomerang, et j'écris un peu dessus. Et pareil, je la mets dans un coin de ma tête jusqu'au moment où, hop, un livre de Francis Dupuy-Déry, un politiste québécois, qui écrit un livre qui est très marquant, hein, qui s'appelle Althusser assassin. Là, on est obligé de dire son nom, mais c'est important de mettre les deux mots ensemble. Parce que pour le coup, ça n'avait pas été fait. Et je me dis, c'est génial, il faut que j'écrive sur ce livre. Et au départ, les fragments d'Hélène, c'est un article dans Libé qui est juste un point de départ de « je vais parler du livre de ce mec, parce que c'est passionnant ». Et au fil de l'enquête, en fait, je me mets à creuser et je me rends compte qu'il y a encore plus que ça, quoi, qu'il y a en fait toute une histoire à raconter, qu'il y a évidemment un féminicide à raconter et qu'il y a l'histoire d'une femme à raconter.
Alors justement, ce qu'on voit en vous suivant dans votre enquête, c'est que finalement, il y a très peu de traces de cette femme. Il n'y a pas un moment où vous avez eu envie d'arrêter. Et question corollaire, conséquence, c'est qu'est-ce qui vous a fait continuer ? Parce que quand on vous lit, on se dit qu'il y a plein de fois, on aurait été découragé.
Ouais, mais en même temps, c'est pas si décourageant parce qu'il y a des traces, comme je le dis, il y a des fragments de cette femme, mais parce que c'est vrai qu'en fait, elle est symboliquement, elle représente aussi ces femmes qui sont invisibilisées dans leur vie. C'est une femme qui a été résistante, mais en fait, les femmes dans la résistance, c'est pas forcément simple de retrouver des traces. C'est une histoire qui a été écrite au masculin, comme beaucoup de choses. Tout ce qu'elle a fait, en fait, ça a été beaucoup écrit au masculin. Elle a beaucoup été dans l'ombre. Et justement, en fait, si on se dit qu'on ne le fait pas parce que elle est dans l'ombre, ben, en fait, on ne fait plus rien. Donc, c'était aussi, quelque part, une sorte de pas de posture, mais de statement, en fait, de dire qu'il fallait raconter son histoire quand bien même on n'a pas tout. Et de toute façon, les biographies, même si vous avez des milliards d'éléments, vous n'avez pas forcément la vérité d'une personne non plus. Donc, il faut accepter que de toute façon, ces récits-là sont toujours imparfaits, les récits sur les autres. Mais qu'en tout cas, ils veulent quand même dire quelque chose. Et chez elle, il y a un millier de fils rouges et il y a tout un siècle, en fait.
Vas-y, Mirley.
Alors, moi, je n'ai pas lu le livre, je n'ai pas encore eu cette chance. Toutefois, moi, il y a une question que j'ai. Est-ce que vous avez parlé d'invisibilisation ? Dans quelle mesure sa vie à elle a pu inspirer les travaux de cet homme intellectuellement ? Est-ce que cet aspect-là, vous le creusez ?
J'en parle un peu, oui.
Approchez-vous du micro.
Ah, pardon. Vous m'entendez mieux là ? J'avais peur d'être trop...
Non, tout va bien.
De parler trop fort.
Tout va bien, rapprochez-vous.
D'accord. J'en parle un peu de la question de quand une épouse d'intellectuel corrige ses textes, relit ses travaux, ses livres, etc. À quel moment ça devient du travail un peu invisible, non rémunéré évidemment, et dans quelle mesure la personne met entre parenthèses sa propre carrière pour soutenir, et ça c'est toute l'histoire des arts, de la littérature, de la philosophie intellectuelle, etc., et truffée de ce genre d'histoire quand même, de femmes dans l'ombre qui soutiennent en fait les travaux du grand homme et qui auront jamais rien derrière en fait. Enfin, Et donc, il y a un peu de ça dans... En fait, j'ai tout simplement été chercher des archives. Et dans les archives, notamment de textes de Louis Althusser, il y a des corrections qu'appose Hélène Rittmann dans ses textes. Donc, on voit qu'elle a travaillé sur les textes. Ce qui est probablement vrai, c'est aussi l'inverse, c'est-à-dire que lui aussi, il l'a aidé sur des textes. Parfois, il y a aussi des échanges qui se font. Mais en tout cas, il est certain qu'elle s'est beaucoup mise, entre parenthèses. Ouais, c'est
sûr. Il faut qu'on parle un peu d'elle parce qu'elle a beaucoup de défauts pour le monde des normaliens de l'époque. Hein. Elle n'est pas d'abord normalienne, elle travaille dans la science appliquée, pas dans le grand monde des idées comme eux. Elle est de culture juive, puisqu'étant devenue communiste, je ne suis pas sûr qu'elle pratiquait beaucoup. Elle vient d'un milieu pauvre et d'une famille immigrée. Et on se moque par exemple de la manière dont elle est habillée. C'est encore des choses qu'on vous dit, que vous retrouvez dans des témoignages qui ont été dits dans les années 80. J'avais noté, alors si je me dépêche et que j'arrive à retrouver très vite le passage. C'est au moment de son mariage, il y a un journaliste qu'on n'a pas cité dans le JDD qui se permet d'écrire « Mais pourquoi donc Louis Machin, 58 ans, je sais moi qui dis Machin, hein, pourquoi Louis Machin, 58 ans, philosophe, épouse-t-il ce jour de 76 Hélène Légossien ?» Parce que, alors ça, c'est son nom de résistante, pour être clair. Donc, lui, il avait 58 ans, elle avait 66 ans, retraitée, tout le monde s'étonne.
Tout le monde s'étonne et il y a une phrase horriblement misogyne qui est celle de Solers. Alors c'est dans Femme, qui est un roman à clé, mais qui du coup parle de cette affaire et parle d'elle. Et il dit vraiment « petite forme sèche à béret, style institutrice ». C'est-à-dire que c'est même pas un être humain, c'est une forme en fait. Vraiment, il y avait un mépris du côté « elle est pas, en gros, elle met pas des robes ou du maquillage, elle est pas très féminine, elle est plus âgée que lui ». Parce qu'effectivement, elle est plus âgée que lui, ça les perturbe un peu quand même. Donc, et oui, effectivement, elle est d'un milieu pauvre.
Elle court après l'argent.
Elle galère toute sa vie. Elle galère toute sa vie. Elle a du mal. Elle joint difficilement les deux bouts. C'est difficile. Elle est en difficulté, quoi. Il y a ce truc à un moment donné où elle va demander de l'aide à Paul Éluard pour un truc, et en fait, il dit à Althusser après. Bon, elle est bien gentille, Hélène, mais il faut toujours qu'on l'aide, quoi. Elle est chiante, en fait. Enfin, voilà, il y a vraiment un côté comme ça. Donc, effectivement, elle n'est pas... Et puis, elle n'est pas normalienne. Elle n'est pas... En fait, elle n'est pas du tout dans leur milieu. Et ça tranche beaucoup. Et tout ça... Et en plus, elle a un fort caractère. Elle a une personnalité affirmée. C'est une femme très brillante, très intelligente, avec une personnalité. Et ça, ils n'adorent pas du tout, quoi.
Allez, on écoute un peu de musique et on vous retrouve tout de suite. Johanna Luyssen, vous êtes l'autrice des Fragments d'Hélène aux éditions Julliard.
me fascine. Tes histoires rêvées, gravées sur la peau, des fleurs sur la poitrine. Tu m'attends sous l'or.
Voilà, c'était Savara Marie. C'est toujours Hiver et Contre Tout en direct de la cantine, pas si loin à Pantin. Et on est toujours avec Johanna Luisen et Arbon pour parler de littérature. Je crois qu'il y a une virgule.
Hiver et Contre Tout.
Une émission littéraire collaborative.
De 19h à 22h30.
À la cantine, pas si loin. 34 rue Cartier-Bresson à Pantin.
Et sur le 93.9 FM.
J'en aurais pris des virgules dans ma vie. Allez, on revient avec vous au cas d'Hélène et de ce qu'on disait juste avant de son statut social. Il y a quelque chose qui est très frappant dans votre livre, c'est les relations avec le couple Aragon-Elsa Triolet. Une histoire de collant, si vous pouvez nous raconter.
De
bas de soie, c'est juste... Là, on voit bien, parce qu'on parle de féminicide, mais tout avant, il y a quand même ce contexte de mépris social qui est hallucinant quand même.
Oui, mais après, j'ai envie de dire un mépris social qui caractérise quand même l'histoire des femmes, en fait, enfin, qui est quand même partout, qui est absolument partout et qui est sans doute... Enfin, là, il y a un truc en plus qui est évidemment la guerre et une espèce d'exacerbation de plein de choses. Et par ailleurs aussi des tensions communistes, puisque en fait, Hélène, dans sa vie complètement dingue, donc elle naît en 1910, elle meurt en 1980... Donc elle traverse vraiment le siècle, elle est résistante, où là il y a quand même assez peu d'éléments sur ses années de résistance, mais enfin voilà, elle est résistante. Elle est communiste et à un moment donné, elle est exclue du Parti communiste. Je ne veux pas tout dévoiler parce que
racontez pas trop,
il y a quand même des trucs assez marrants et auxquels je ne m'attendais pas pour le coup. Parce que je me disais, quoi que je trouve sur elle, ça sera intéressant parce que j'avais besoin de tout me semblait passionnant, mais ce que j'ai trouvé, c'était même carrément romanesque en fait.
Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui lui reproche, au fond, c'est d'avoir été courageuse ? Parce qu'elle, elle est courageuse, elle y va. Ça, vous ne le dites pas. Et je me suis demandé pourquoi vous...
C'est pas que je ne dis pas, c'est que ce n'est pas clair. Enfin, si vous arrivez à déchiffrer, parce qu'en gros, elle est exclue.
Dans toute sa vie, quand même, elle est courageuse, elle se bat, c'est une femme... Elle n'a pas, entre guillemets, le confort de normal. Je vais me mettre mal avec les normaliens. J'espère que vous n'êtes pas normalien. Bon, tout va bien. Bon, alors c'est...
Ah oui, non, mais c'est un milieu très fermé, évidemment.
Elle a ce côté, quoi. Elle est très volontaire.
Elle est très volontaire. Et effectivement, partout où elle va, elle détonne un peu. Et particulièrement dans un milieu qui est extrêmement fermé, entre le 5e et le 6e arrondissement, quoi. Donc...
Qu'est-ce qu'il lui reproche, au fond ?
Il lui reproche, je pense, des tas de choses. Très probablement d'être une femme qui pense, d'être une femme qui ne mâche pas ses mots, parce que c'est aussi quelqu'un de... encore une fois, c'est une femme d'action. C'est un truc qu'il admirait, d'ailleurs, chez elle. Mais c'est une femme d'action, en fait.
Il y a un roman. Vous pouvez nous raconter l'histoire roman ? Parce que ça, c'est romanesque dans le roman.
Elle a un manuscrit. Alors, en fait, elle a écrit un livre. Elle a voulu être romancière et puis et ça n'a pas marché. Donc, elle a écrit un roman sur ses années de résistance qui aurait sans doute aussi peut-être donné des éléments sur ce qu'elle y a fait. Simplement, le manuscrit a été refusé par Albert Camus, parce qu'il y a quand même toujours un peu un sale type sur le chemin dans sa vie à cette pauvre Hélène. Et là, c'est Albert Camus qui lui dit en fait, on ne va pas prendre ce texte. Et puis plus la lettre, on la lit, plus elle est horrible. Enfin, on dirait qu'il la capte de plus en plus pour lui dire non, mais vraiment, plus on avance dans votre livre, moins le texte est bon. Enfin, vraiment. Mais bon, voilà, c'était bien tenté quand même. Bon courage pour la suite. Le manuscrit se perd. Et le fait que le manuscrit se perd, à la fin, on ne saura jamais. Peut-être qu'il est perdu quelque part dans une brocante, peut-être. Mais en tout cas, il y a le seul récit qu'on aurait pu avoir de ces années de résistance, il est soit caché au fond d'un bureau dans une cave quelque part, soit il est détruit à jamais, en fait.
Ça arrive, ça, à Arbon, qu'on retrouve des manuscrits que tout le monde croit disparus ? Vous qui avez été éditeur, c'est pour ça que je pose la question. Alors, on ne vous entend pas, je ne sais pas, votre... Non. Rapprochez-vous peut-être du micro, je ne sais pas. Non, alors peut-être... Pardon, sinon je vais vous prêter le mien. Je vous prête le mien.
J'ai pas de micro.
Ah, voilà.
Merci. Distraction des ingé-sons.
On vous aime, Thomas et Pierre. Donc, pardon, je repose ma question. Est-ce que ça peut arriver qu'on retrouve comme ça un manuscrit qu'on croit disparu ?
Oh, j'en sais rien. Ça
vous est arrivé, vous, dans votre carrière ?
Ça m'est arrivé. Moi, ça ne m'est pas arrivé. Non, ça ne m'est pas arrivé. Je pense que c'est quand même assez rare.
Ça fait rêver, les éditeurs, ça ?
Pas forcément. Il n'y a pas de raison d'ailleurs que ces manuscrits soient meilleurs que ceux qui ne disparaissent pas d'ailleurs.
Oui, c'est pas parce qu'ils ont disparu qu'ils sont.
Non.
Alors moi j'ai juste une petite question sûr, là, parce que depuis quelque temps on revisite quand même les ouvrages et les auteurs, de savoir qui ils étaient, avec notamment une femme qui s'appelle Cécile C, qui est assez passionnante, et elle fait un travail assez, assez fort en ce moment d'excaver toutes les histoires d'inceste de famille, et notamment Albert Camus. Alors l'histoire de ces intellectuels, c'est aussi tous ces aspects-là, on le voit aussi avec la famille Trintignant, où ça aussi s'était caché, et qui a fait de la Marie Trintignant une proie facile pour un autre. Alors, dans quelle mesure ces hommes sont pétris d'une absolue violence assourdissante ? Parce qu'en fait, elle ne tombe pas sur un seul type, elle tombe sur des types faits de la matière du masculin au XXe siècle et avant, et quand ils ont une femme, ils la broient. Est-ce qu'on n'est pas aussi sur un cas d'école, on va dire, que le destin de cette femme, à cette époque-là, au milieu de ces intellectuels qui ne sont pas seulement des normaliens, qui sont faits de cette matière-là, à savoir de la destruction des femmes ?
Oui, et c'est quelque chose de parfaitement universel, effectivement, et le fait de revisiter, c'est très intéressant, parce que moi, c'est ce que je fais, de toute façon, c'est revisiter cette histoire aujourd'hui, et quoi que vous preniez comme sujet, vous vous rendez compte que si vous grattez un peu quand même la terre, il y a toujours des trucs un peu dégueulasses comme ça, en fait. Enfin, je sais pas, cet été, par exemple, moi, je vais prendre un exemple de Libération où je travaille, je relisais un article sur le Tour de France et j'ignorais totalement les histoires horribles concernant Jacques Anquetil que j'ai vraiment découvert et d'un niveau d'inceste et de c'est tordu et pervers à un niveau, mais genre vraiment, enfin. Et je me dis, mais comment pendant toutes ces années on a pu idolâtrer ce type avec des trucs pareils ? Donc en fait, il faut vraiment interroger la manière dont on fait les récits, évidemment, la manière dont la complaisance qu'on peut avoir, y compris qu'on a eu il y a plus de 20 ans au moment de l'affaire Trintignant, sur la complaisance qu'on a pu avoir sur tous ces, sur plein de systèmes, sur plein de fonctionnements. De rien dire. Enfin, pour moi, ça rejoint tout ça, en fait. Ça rejoint... Je parle au début du livre de Gabriel Matzneff.
Allez-y.
Voilà, enfin, de toute cette époque, en fait, où je raconte que moi, au début, quand j'entends parler d'Hélène, c'est aussi l'époque où Matzneff, il est... c'est une star, en fait. Et personne conteste ce qu'il dit. C'est vaguement sulfureux, mais enfin, ça, c'est juste sulfureux. En fait, c'est pas pénalement répréhensible dans la tête de plein de gens, en fait. Donc c'est une question sociétale, en fait, aussi.
Mais son mari fantasme sur sa famille à elle et sur le rapport qu'elle entretient, notamment avec sa mère, je crois. Hein. Il fantasme beaucoup sur le fait qu'elle détestait sa famille.
Oui, en fait... Bah,
c'est très étrange ce qu'il écrit après sa mort sur ça.
Bah, disons que le problème, c'est qu'en fait, lui, quand il donne des éléments sur elle, et notamment des éléments biographiques, j'ai pas grand-chose pour les vérifier, et ça pose la question des sources biographiques, c'est que quel crédit vous pouvez donner à quelqu'un qui a assassiné sa femme, enfin qui a tué sa femme, en tout cas, parce que l'assassinat, c'est compliqué, mais en tout cas, le meurtre, oui. Quelqu'un qui a tué sa femme et qui va dire après coup, parce qu'il écrit l'avenir du longtemps après donc l'assassinat.
L'avenir du longtemps, c'est ses mémoires.
Ce sont ses mémoires publiées à peu près 10 ans après le meurtre. Et où il dit, voilà, l'enfance d'Hélène, c'était comme ci, comme ça. Et en fait, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? C'est-à-dire, est-ce que c'est pas utile pour lui ? Est-ce que c'est pas confortable pour lui de dire que les relations étaient mauvaises pour dire qu'en fait, Hélène s'entendait avec personne et que c'était quelqu'un de compliqué ? Enfin, on sait pas, en fait. Et en même temps, moi, j'étais un peu tiraillée parce qu'à la fois, je devais... me dire que cette source, il y avait plein de problèmes, et à la fois, ça reste quand même une source, et j'en avais peu, donc je suis quand même obligée de faire avec. Je ne peux pas dire qu'il n'existe pas dans l'équation.
Et en même temps, aujourd'hui, on a un nouveau vocabulaire qui permet de synthétiser tout ce qui se passe, à savoir ce récit-là d'Althusser. On peut poser l'hypothèse que c'est le récit de l'emprise. C'est le récit de la femme pas comme il faut, qui était provocatrice, et qui méritait quelque part ce statut de... en tout cas de personnes dites inférieures ou qui n'est pas comme il faut au regard de tous les amis de Louis Althusser.
Oui, oui, complètement. On peut totalement dire ça. Et de toute façon, ce qui a été très marquant à l'époque, ça a été le traitement médiatique de cette affaire qui a été complètement délirant et qui a montré une absence absolue de vouloir considérer à la fois, évidemment, ces sujets-là, de même pas considérer l'existence même du meurtre. C'est-à-dire que je parle même pas du féminicide, qui est un terme qui est apparu assez tard dans le...
Il n'y a pas de victime, en fait, dans la presse à l'époque.
Il n'y a pas de victime. En fait, on est vraiment sur à quelque chose où ils doutent, même dans les premiers reportages, on doute même de... Enfin, on n'est même pas sûr que ça soit lui qui l'ait tué, alors qu'il est sorti du truc en disant « J'ai tué Hélène », il allait voir le médecin de l'école normale en disant « J'ai tué Hélène ». Et vraiment, genre, je crois que c'est France Inter à l'époque qui dit « Oui, il s'accuse du meurtre, mais enfin bon, comme il n'est pas très stable mentalement, peut-être que c'est pas le cas ». Donc vraiment, il y a quelque chose de
c'est
dingue
c'est
dans la...
C'est complètement hors sol et lunaire, quoi.
C'est lunaire.
S'il y a 40 ans. On en profite quand même pour dire du bien d'une femme, Claude Sarraute, une journaliste qui, à l'époque... Moi, ça m'a surpris, parce que je me souviens de l'époque où elle faisait ce billet dans Le Monde, et quand même qui est une des rares courageuses et qui dit... Bah nous, en France, les victimes, on s'en fout. Elle l'écrit comme ça. Quand même, j'aurais qu'on parle un peu d'Hélène, parce que je vois l'heure qui tourne déjà. Et je sais que vous devez nous quitter bientôt.
Pour de bonnes raisons, ces enfants l'attendent.
Moi, je n'allais pas, mais bon, allez-y. Elle est aussi lieu, elle a quelque chose de solaire. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit un peu sur cette couverture. Il y a un moment, on regrette presque de ne pas l'avoir connue telle que vous la racontez. On a l'impression d'une femme, en fait, qui devait être une sacrée bonne amie.
Qui devait en tout cas être une femme extrêmement passionnante, extrêmement touchante, je pense. Moi, j'étais très heureuse de rencontrer les personnes à Port-de-Bouc. Alors, je vais vous raconter un peu pour les personnes qui ne connaissent pas du tout ni sa vie, ni le livre, parce que j'en parle évidemment. En fait, Hélène, à la fin de sa vie, elle a 70 ans, elle est retraitée, mais elle est sociologue depuis quelques années. Et en fait, elle se prend de passion pour un projet de mémoire ouvrière qu'elle veut faire à Port-de-Bouc, à Martigues, à Fos, etc. Donc du côté de l'étang de Berre, dans les Bouches-du-Rhône. Et elle se dit, je vais raconter la vie ouvrière là-bas, etc. Donc elle s'arme, comme elle n'a pas beaucoup d'argent, elle fait un petit budget, elle se dit, ah, je vais aller là-bas, etc. Parce qu'en fait, un jour, elle a écouté la radio, elle a entendu un projet culturel mené par la mairie communiste de Port-de-Bouc avec... plein de gens, avec des artistes, avec des sociologues, etc., enfin, qui mêlaient un espèce de projet social, scientifique et artistique. Il y avait même Jean-Claude Izzo dans le jeu, quoi, dans le...
De série noire.
Voilà, dans la partie, Total Chaos, notamment. Et donc, en fait, elle se dit « Ah, génial, je veux absolument faire ça !» Et donc, elle fonce à Port-de-Bouc et elle va voir les gens là-bas, et notamment Jo Ross, qui est un personnage super important dans mon livre et dans cette histoire, en lui disant « Je veux participer !» Et donc, elle participe bénévolement. C'est ce qu'elle fait, en fait, avant d'être tuée. Elle est complètement engagée dans ce projet, et c'est là où elle passe ses derniers moments de vie. Puisque, quand elle est tuée, c'est qu'elle part précipitamment. Elle était là-bas. Elle devait prendre un train plus tard. Elle écourte son voyage. Elle part parce qu'il est en crise. Elle le dit. Elle dit qu'il est violent, qu'il est en crise, que c'est dur. Et elle y va quand même. Elle va là-bas. Elle est tuée là-bas. Et eux apprennent qu'à Paris, elle a été tuée. Ils sont effondrés. Ils continuent le projet sans elle et tout. C'est super touchant. Et en fait, ces gens-là n'ont jamais, en 40 ans, été entendus, puisque ils ont essayé de contacter les gens qui gravitaient autour du couple. Et puis, tout le monde s'en fichait un peu, des gens de Fos-sur-Mer, de Port-de-Bouc, etc. Donc, en fait, tout le monde s'est dit, on s'en fout. Et en fait, de leur parler, qui me raconte comment elle était, le caractère qu'elle avait, encore une fois, vraiment bien trempé et tout... De raconter un peu comment elle s'est engagée pleinement dans ce projet, etc. C'était extrêmement émouvant. J'avais l'impression de la voir. En plus des archives que j'ai trouvées, je sais pas, ses notes de restaurant, quand elle s'est mangée sa petite bourride à Martigues, en faisant ses recherches et ses entretiens, ses notes passionnées, etc. Là, d'un coup, j'ai vu une femme avec toute la passion qu'elle a pu avoir. Et puis, je voudrais dire aussi, parce que Hélène, moi, j'ai du coup lu ses lettres. Il faut savoir qu'il y a 15 ans à peu près, on a publié Les lettres à Hélène de Louis Althusser. C'est une coédition IMEC Grasset. Donc l'IMEC, c'est l'Institut Mémoire des Éditions Contemporaines. Donc ils archivent énormément de choses, de documents d'artistes divers. Et ils ont tout le fonds Althusser. Et en fait, on a publié à peu près 1000 pages de lettres à Hélène dans lesquelles il n'y a pas une réponse d'Hélène dedans. Mais vraiment pas une réponse. Et en fait, moi, à l'IMEC, j'ai trouvé les lettres d'Hélène qu'elle a écrites, elle, avec sa voix, en fait, où elle parle, où elle raconte des choses, elle raconte sa vie. Et là, d'un coup, j'ai été émue. Je me suis dit, mais ça y est, elle est là, en fait. C'est elle, ce qu'elle aime, ce qu'elle aime manger, les couleurs qu'elle aime, ce qu'elle aime lire, ce qu'elle a détesté au cinéma, ses emportements, ses énervements.
Elle a plutôt bon goût en cinéma, on va le dire.
C'est une grande cinéphile. Elle a travaillé avec Renoir aussi, ça on l'a pas dit, mais on peut pas tout dire parce qu'elle a une vie vraiment qui est dingue. Quand on y pense, de croiser tout ça, toute cette vie, quoi.
Merci beaucoup. Vous êtes passionnée. L'histoire est passionnante et vous la rendez encore plus passionnante.
Merci.
Et on s'en fout pas.
Ah non, pas du tout. Les fragments d'Hélène, c'est publié chez Julliard et vous en êtes l'autrice, Johanna Luyssen. Merci d'être passée ce soir par Radio Campus Paris. Eh ben, on envoie de la musique. We came from the four corners. We are the raw waters, the course, the four horsemen. We drink from the water, the pores. We carry the river, the reservoir, the residue. Rising waves, sea spray, the inevitable churn and crush. Many voices in our vapors, we surge and gush. We were steam and a distant heat. We move rapid over landscape, gathering speed. Desert land, city, forest and beach. Heading for the people to sleep, ready to bleed. Unleash the torrents, come clean. Carry many lessons, let the water teach. But you better learn to swim or you'll get caught beneath. Hard rain falling on all the half-hearted, half-formed, fast-walking, half-fury, half-boredom, half-talking, half-dead from exhaustion, half-push, but the puddles keep forming, don't fall in. Some saw us in their tea leaves, some felt us in their knees. Most left it to the weathermen to tell them there was nothing to see. You can play dumb and ignore for so long, but we've been in the mountains getting strong. We've seen you filling up the sky with your fumes, sitting in your rooms like you're all that ever lived. Heads down to the lives of the others in your towns, running from the rains like you've never been kissed. Look, leave your possessions and funds, tell your friends that you've gone to make peace with the things you never done. Come dance in the dough, you spill like the flood. The weather vane swings, things will never change. All their money men who close their eyes and pretend that this rumble must be low playing so strange. Hard rain falling on all the half-hearted, half-formed, fast-walking, half-fury, half-boredom, half-talking, half-dead from exhaustion, half-push, but the puddles keep forming, don't fall in. And they will run to the highest hill, consult the old books, ask the dead mystics for wisdom they don't trust. The people will flock to the garages, stockpile canisters of gasoline, tinned fish and bandages. Count the seconds between the thunder and the lightning, scared of every other body running round frightened. We can't carry on like this, you will mutter, staring with disgust at the people weeping in the gutter. Yet we made no trouble, we played by the rules. I worked double shifts to get my kids through school, but you were so focused on your own little part, you went plumbing on blind in the dark, no heart. Now we're not the dread storm that will end things. We're just your playful gale force friend in these end times. Come to remind you, you're not an island. Life is much broader than borders, but who can afford to think over the walls of this fortress? Of course, it's important to provide roof and floorboards for you and yours, and be secure in your fortunes. But you're more than the three or four you'd go to war for. You're part of a people that need your support. And whose world is it if it belongs to these corporates? The people are left on the doorstep, door shut, nauseous and tortured by all that they lost. Hard rain falling on all the half-hearted, half-formed, fast-walking, half-fury, half-boredom, half-talking, half-dead from exhaustion, half-push, but the puddles keep forming, don't fall in.
Et c'était Kate Tempest, Don't Fall In.
Hiver et contre tout.
Une émission littéraire collaborative
de 19h à 22h30
à la cantine pas si loin, 34 rue Cartier-Bresson à Pantin
et sur le 93.9 FM.
On va demander à Arbon, qui est avec nous peut-être, de parler de son roman Les derniers jours de Harry Yuan. Vous êtes un roman qui est publié au Diable Vauvert. C'est votre premier roman, mais vous avez fait beaucoup de choses avant puisque vous avez été éditeur, vous avez été chanteur, vous avez fait de la musique.
Oui.
J'ai eu l'impression, en vous lisant, que vous aviez à moitié écrit un livre bilan, presque des mémoires, mais que vous aviez l'élégance de ne pas trop vouloir nous encombrer avec votre ego. Est-ce que je me trompe ?
Non, vous ne vous trompez pas. C'est un peu, oui, c'est vrai, c'est un livre qui fait un peu le retour sur mon expérience de vie, à travers la rencontre de cet homme qui s'appelle Harry Yuan, la chance de rencontrer, et qui m'a donné, dont le parcours en fait me paraissait devoir être raconté. Bon, c'est une histoire qui est absolument incroyable, d'un homme qui est né en Chine en 48, qui grandit donc pendant ses 20 premières années sous Mao, qui ensuite va s'exiler aux États-Unis et qui, par un certain nombre de circonstances qui sont racontées dans le livre, va devenir un des génies visionnaires du numérique et comprendre le premier comment le numérique va bouleverser plein de secteurs d'activité.
Mais pourquoi ne pas avoir écrit des mémoires, franchement ?
Ça vous amusait pas?
Parce que ça, j'écris pas mes mémoires, là.
Vous êtes trop jeune.
D'abord, je suis trop jeune. J'ai encore beaucoup de choses à engranger avant de les raconter. Mais ensuite, parce que l'affaire romanesque, c'est pas ma vie, c'est la sienne. Et donc, je me mets un peu en écho en prenant le rôle du narrateur et le fait qu'on se rencontre tous les deux et qu'on discute. Et qu'on est effectivement tous les deux au soir de notre vie. Et donc, d'ailleurs, quand je le retrouve, il me dit cette phrase de Groucho Marx. Il me regarde, et il voit qu'on a pas mal changé l'un et l'autre. Et il me dit, tu sais ce que c'est qu'un vieux? C'est un jeune qui se demande comment il en est arrivé là. Et voilà, donc il y a effectivement cette réflexion en filigrane, parce que je raconte sa vie, mais je raconte derrière, en fait, oui, cette espèce de méditation sur ce qu'on devient, sur ce que j'appelle la méditation d'Ulysse, puisque Homère, dans l'Odyssée, pose en fait, dans l'Iliade, c'est très bien, tout le monde est des héros, et Ulysse en particulier, il invente le cheval de Troie, tout le monde gagne, les Grecs gagnent. Et puis ensuite, il s'agit simplement qu'il rentre chez lui et il n'y arrive pas. Il est ballotté par les éléments, les événements, et puis il n'arrive pas à rentrer chez lui. Et donc, en filigrane, la question, c'est finalement, qu'est-ce que devient un homme quand il a cessé d'être un héros? Et je pense que c'est une question qui se pose à tout le monde quand on a derrière soi la partie active, productive, conquérante de son existence. Et c'est aussi effectivement en filigrane ce qu'il y a dans ce livre.
Alors, les derniers jours de Harry Yuan racontent aussi les 25-30 dernières années de la révolution numérique, donc depuis son début. Pourquoi c'était important pour vous de la raconter? Et là, j'y tiens beaucoup d'une manière romanesque. Qu'est-ce qui vous motivait? Parce qu'on peut trouver ça très ennuyeux, finalement.
Pour que ça ne soit pas ennuyeux. J'ai essayé que ça ne soit pas ennuyeux. Je pense que ça ne l'est pas. Mais disons que... En fait, modestement, j'ai été un des acteurs de cette révolution.
Alors, on peut dire que c'était une société qui s'appelait Zéro...
Qui s'appelait Zéro Heure, et qui était la première au monde à faire de l'édition en ligne, c'est-à-dire à se dire qu'on allait pouvoir maintenant publier des textes, pas simplement imprimés sur papier, mais également en numérique. Mmh. Voilà. Ça m'a amené à rencontrer un certain nombre d'acteurs du numérique à ce moment-là, au tournant des années 90-2000. Et je connais assez bien tout ce qui a pu se passer. Et donc voilà, j'ai trouvé avec Harry Yuan l'occasion de raconter tout ça de manière, j'espère, relativement agréable, mais effectivement en filigrane, pareil, en arrière-plan de sa vie. Il y a la révolution numérique des années 90-2000, donc des CD-ROM jusqu'aux crypto-monnaies.
Alors, comme je crois que vous êtes un homme galant, on va laisser la parole à Julia Lapierre qui
est arrivée. Un peu galant, tout ce qui est cryptique peut être décrypté par la radio. Donc on peut effectivement se dire que repasser la parole à Julia Lepère, c'est une opération...
Je crois que vous êtes la reine de la transition, Mirle.
Métaphysique extraordinaire. On dit Mirle.
Mirle, pardon.
Julia, bonsoir. Est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis là. Vous m'entendez cette fois?
Oui, on vous entend. Super.
Bon, on a juste perdu un tampon, mais ça va.
C'est la magie de la radio ou l'horreur, là. C'est la magie. Comment allez-vous?
Écoutez, je vais très bien. Merci de m'accueillir.
Ben, en tout cas, c'est un plaisir. Je ne sais pas si vous entendiez tout à l'heure ce que j'évoquais. Donc, poétesse. Et vous dites poète ou poétesse?
Moi, je dis poétesse, mais j'accepte qu'on dise vraiment les deux. Je sais pas de... Voilà, j'ai pris l'habitude de dire poétesse. Avant, je disais poète. Donc, les deux sont possibles.
Bon, en tout cas, merci d'avoir décroché le téléphone. Je sais que vous n'êtes pas super en forme. En tout cas, on va se mettre en forme pour un beau bébé qui va arriver plus rapidement qu'un autre, peut-être.
À savoir
votre premier roman, La mère et son double. Est-ce que c'est la suite de vos travaux qu'on a pu lire dans Catastrophe, la revue de poésie?
Alors non, pas tout à fait. En fait, La mère et son double, Vous m'entendez toujours?
On vous entend toujours.
Ah oui, super. La mère et son double, en fait, c'est la suite plutôt d'un recueil d'un recueil d'un récit poétique en fait que j'ai fait paraître aux éditions Glangle Mort, qui s'appelait Molly Fall, et je reprends un peu cette espèce de western pour le poursuivre dans La mer et son double, mais ça ne ressemble pas tellement à ce que j'ai fait paraître dans Catastrophe, à part peut-être l'évocation du cinéma, parce que j'avais travaillé pour Catastrophe le texte Une femme perd silence, qui était un texte sur le cinéma, et il y a aussi ce sujet qui est présent dans mon roman.
Il est exploité comment dans ce premier roman ?
En fait, dans ce premier roman, qui prend la forme d'une double narration, une femme, dans l'une des deux narrations, une femme vient tourner un film dans une ville de western quasi désaffectée. Et elle dit elle-même qu'elle vient tourner un film qui n'existe pas. Et en commençant à tourner ce film, il y a des événements étranges qui apparaissent sur sa caméra, qui n'apparaissent pas dans la réalité. Et c'est en essayant d'élucider un peu ces éléments d'étrangeté qu'elle va rentrer dans une espèce d'enquête un peu fantastique. Donc je ne vous en dis pas plus, mais en tout cas, le fait de filmer est vraiment une action récurrente dans le roman.
Et aussi une façon peut-être de regarder le monde, Julia, quand on vous lit dans la revue de poésie de Pierre Vinclair. Moi, il y a ça à chaque fois qui me touche et qui m'a touchée, c'est votre regard. On est guidé par ça et on est dans la narration du regard dans votre travail de poésie. Est-ce qu'on va le retrouver dans ce roman ?
Oui, c'est un roman qui... Bah, merci beaucoup déjà pour votre regard à vous sur mon travail. Mais effectivement, dans le roman, déjà, il y a une empreinte poétique très forte et j'ai essayé de travailler un peu comme je le faisais dans la poésie, vraiment sur l'image poétique et sur la vision, ce que la vision ne peut montrer, ce que la poésie vient dire de l'invisible. Et donc, il y a tout ce jeu aussi sur le regard et aussi la limite du regard qui, j'espère, est présent dans le roman, effectivement.
Alors, le titre, c'est « La mer et son double ». Quelle est cette présence du double ? Parce qu'on entend par votre description des choses qui apparaissent, qui disparaissent. Moi, tout de suite, l'imaginaire qui me vient, c'est David Lynch.
Oui, mais c'est très juste. David Lynch, ça a été une vraie inspiration même de construction et pour son travail aussi sur l'énigme, sur l'inconscient et tout ça, ça a été vraiment une référence pour moi. Et le double, parce qu'en fait, il y a une double figure de femme. Donc il y a deux protagonistes dans ce texte, une qui écrit à la première personne et l'autre que j'ai écrit à la troisième personne. Et il y a cette idée aussi constamment de remplacement, de réplique, de se voir dans l'image. Et c'est vrai que par exemple pour la deuxième protagoniste, c'est une femme qui a perdu la mémoire, qui se fait repêcher par l'équipage d'un cargo. Or elle se fait repêcher 3 jours après qu'un des membres de l'équipage s'est jeté par-dessus bord. Et elle-même a la sensation de venir remplacer quelqu'un et elle ne sait pas ce qu'elle fait là. Et il y a toujours cette espèce de jeu de miroir comme ça à travers le texte, de personnages aussi qui sont en miroir les uns des autres dans chacun des récits. Et donc la figure du double est vraiment creusée à beaucoup de niveaux. Et aussi dans l'aspect vraiment rêve et réalité. Et en effet, la double figure de femme peut faire aussi penser à des héroïnes de David Lynch, par exemple à Mulholland Drive, des choses comme ça. Même si les thématiques ne sont pas du tout les mêmes, mais en tout cas, il y a cette idée aussi de duplicité et de voilà, de danger aussi dans ce double.
Est-ce que vous avez eu des références pour écrire ce roman ou c'est complètement issu de votre imagination ?
Alors c'est globalement issu de mon imagination, mais après je lisais quand même, comme c'est un roman qui se passe aussi beaucoup en mer, j'essayais de lire aussi, je suis très influencée, enfin très marquée par les lectures de Melville, de Conrad, d'auteurs comme ça. Je sais que je lisais pas mal Conrad pendant l'écriture du roman, sans du tout évidemment prétendre à écrire à moitié aussi bien, mais en tout cas voilà, ça a été quelque chose qui a été présent. En fait, j'étais aussi assez marquée par des univers comme ceux de Lovecraft, par aussi Mervyn Peake. Je sais que peu de gens le connaissent, mais c'est l'auteur de Gormenghast, pardon, je vais y arriver, qui a un récit baroque, gothique, très étrange, qui est paru au début du XXe siècle. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose.
Est-ce que vous pouvez répéter le nom, comme ça on le mettra sur le site d'internet pour que les gens puissent se nourrir de ça?
Alors c'est donc Gormenghast, qui est le nom d'un château, et donc c'est de Mervyn Peake.
Mervyn Peake.
Qui est un auteur qui travaille aussi sur la dimension fantastique. Enfin, je me nourrissais aussi d'auteurs qui travaillaient sur la dimension fantastique, sur le merveilleux, mais aussi sur des atmosphères comme celle des Sœurs Bonté, des atmosphères d'étrangeté, de passion amoureuse. Mais ça, c'était plus, disons, des références qui me nourrissaient et m'habitaient en général. Mais disons, pour ce texte, voilà, je me suis plutôt inspirée de choses qui, voilà, étaient très, très présentes pour moi depuis longtemps, de ces récits que j'avais envie d'écrire depuis longtemps.
Alors moi, je vous propose, Julia, pour qu'on puisse faire goûter votre écriture, on utilise tous les sens quand on lit, surtout en poésie, qu'on puisse découvrir votre écriture par le texte avant ou après, et par votre voix, bien sûr.
Oui, bien sûr. Elles disent, nous avons trop aimé. Nous ne pouvons plus nous perdre dans les champs de maïs, nous asseoir sous les tonnelles et sur les puits, nous appuyer à l'ombre des meules de foin et regarder d'en bas la haute taille qu'il prend avec ses bras de calaveras mexicaines, avec ses bras blancs de totem, avec ses bras bruns de montagne, ses bras d'encre de pinceau, nous laisser peindre, dessiner, filmer, nous laisser prendre en photographie, robe rose sur des papiers peints de 60 ans, faire semblant de pâlir, de rougir sur les paliers, laisser ouvert pour la fumée, graver nos noms sur le cuir, sur le bois, nous gonfler d'eau quand ils partent sur le port où les mouchoirs pâlissent, rougissent, laisser la jalousie tordre nos ventres tandis que nous manquons tous les soleils couchants. Nous ne pouvons plus observer la succession des arbres, des vagues, les poutres, les portes mal alignées, les fissures des murs dans des chambres d'hôtel, choisir de petits meubles foncés quand vient la nuit, allumer des ventilateurs, laisser des traces de sang dans des lits trop étroits, prendre des trains où les bouffes cherchent les oreilles. Nous n'entendons plus les suppliques des feux nous transformer en animaux et dessiner sur la dune une courbe entre nos deux silhouettes, qu'elle n'en fasse qu'une. Nous avons laissé le vent se perdre en nous. Nous avons laissé la maison vide, ses branches cassées. Nous avons laissé les bambous envahir le jardin. Et elles disent, nous avons trop aimé.
Un extrait lu de par Else Bless, un de vos recueils de poésie, Julien.
Alors, oui, tout à fait.
Je pense maintenant que nos auditeurs vous connaissent un petit peu mieux, connaissent un peu mieux votre écriture. En plus, on sait aussi que vous nous avez mis l'eau à la bouche pour la mère et son double. On va du coup revenir sur notre plateau en direct. On vous souhaite une très bonne soirée, Julia, et merci d'avoir été présente malgré la maladie avec nous.
Bonne soirée à vous et merci beaucoup à vous. Et bonne suite d'émission.
Merci.
Hiver et contre tout.
Une émission littéraire collaborative
de 19h à 22h30
à la cantine pas si loin, 34 rue Cartier-Bresson à Pantin
et sur le 93.9 FM.
Et on retrouve Arbon, excusez-nous, hein, vraiment. Vous êtes l'auteur des derniers jours de Harry Yuan aux éditions Au Diable Vauvert. Tiens, d'ailleurs, pourquoi vous avez choisi cet éditeur ? Un éditeur non parisien, un éditeur du sud de la France, si je me souviens bien.
Un éditeur indépendant dans le sud de la France, parce que c'est une...
C'est une éditrice en plus.
C'est une éditrice qui s'appelle Marion Mazoric, qui est une amie. Et qui a été tellement enthousiaste quand elle a lu mon texte. En fait, je lui ai envoyé en disant « Je l'envoie à l'ami, je ne l'envoie pas à l'éditrice ». Et elle m'a répondu « Conseil d'ami, envoie-le tout de suite à l'éditrice ».
Voilà. On reconnaît sa personnalité, elle est plutôt une personnalité assez rock. Hein.
Oui, assez rock.
Elle, je ne sais pas, mais je l'ai connue il y a quelques années, est-ce qu'elle n'a pas changé ?
Non, elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé, elle est très...
Elle est toujours
derrière
Arles. Hein,
Elle est à Vauvert, parce que c'est le nom d'une petite ville du Gard. Donc c'est entre Nîmes et Montpellier. Oui.
Très bien. Alors votre roman est... Ah pardon,
C'était pour avoir quand même la voix féminine. On ne parle pas d'une femme quand elle n'est pas là.
Oh bah pourquoi pas ?
Et pourquoi pas ?
Pour la louer.
Pour la louer, elle est rock, je ne sais pas. Là. En tout cas, je me fais la voix féminine du plateau.
Bon, d'accord. Oui. Votre roman est Saint d'un bon dos, un thriller à la Monte Cristo. Dumas, c'est une référence pour vous ? Ou c'est l'éditrice là, qui... dit, il faut mettre un truc connu pour...
Oui, enfin, c'est vrai qu'avec ça, on a effectivement une entrée connue. C'est un thriller, c'est une première entrée. Monte Cristo, c'en est une deuxième. Et puis France Inter, c'en est une troisième, même si on n'est pas... On est sur Radio Campus.
Donc, c'est beaucoup moins bien. Donc,
oui, mais voilà.
France Inter.
Et donc, non, c'est parce qu'en fait, l'histoire de cet homme est aussi une histoire à la Monte Cristo. Il se trouve que... Il a été un des pionniers du numérique, il a fait fortune, il est devenu multimilliardaire. Et puis ensuite, il lui est arrivé de faire une mauvaise rencontre qui l'a mis dans de grandes difficultés au point qu'il a été ruiné et qu'il a fait de la prison. Et à l'issue de la prison, il a disparu. Et donc, ça, tout ça, c'est le personnage réel qui l'a vécu. Et donc, je n'ai pas été chercher l'inspiration très loin. En revanche, après, j'imagine qu'il s'est vengé. Et il s'est vengé, évidemment.
Ça, on ne va pas dire comment.
On ne va pas dire comment, mais c'est évidemment la référence à Monte Cristo s'impose à ce moment-là.
Mais je repose ma question. Dumas, ça fait partie des auteurs que vous aimez, que vous avez lus.
Ah oui.
Et plus globalement, au début, vous citez Stendhal. Vous aimez plutôt cette littérature classique du 19e ?
J'aime beaucoup cette littérature, mais surtout quand je me suis dit, puisque c'était mon premier livre, je me suis dit, j'aimerais retrouver, au moins en l'écrivant, le plaisir que j'avais en lisant des romans d'aventure. Donc effectivement, que ce soit Le Comte de Monte Cristo, les Jules Verne, enfin voilà, tout ce qu'on pouvait lire, là, que c'était tout à l'heure Conrad, Stevenson, etc. Enfin, disons, toute cette littérature où on est un peu happé par une histoire.
Mais justement, est-ce qu'on a le même plaisir quand on écrit l'histoire que quand on la lit ? Parce que quand on la lit, j'imagine que vous avez des difficultés. Il y a des moments pour tisser votre récit. Vous réalisez, il y a quelqu'un qui a déjà fait le travail. Donc j'imagine que c'est plus compliqué. Peut-être que je me trompe, hein, c'est peut-être un autre plaisir.
Oui, évidemment, c'est un autre plaisir d'écrire et lire. C'est pas tout à fait pareil. Ça, c'est vrai. Mais en fait,
en général, je suis bon pour les évidences. Hein, n'hésitez pas.
Mais non, moi, j'ai pris du plaisir à écrire. J'ai pris du plaisir à écrire. J'étais pas dans l'attente de savoir ce qui allait se passer, parce que je le savais. Mais la manière dont ça allait venir, dont ça allait s'agencer avec ce qui précédait, dont j'allais avancer dans l'histoire, c'est naviguer dans l'histoire, en fait. On navigue.
On parlait justement de la mer et son double. Vous parlez de naviguer dans l'histoire.
Oui.
La mer Méditerranée, c'est un personnage de votre récit.
Oui.
En tout cas, c'est un endroit que vous aimez, ça c'est sûr.
C'est un endroit que j'aime. Oui, j'ai placé ce livre dans une île grecque, une île des Cyclades, imaginaire, mais qui est un patchwork de différentes îles qui existent bel et bien. Et moi, c'est un endroit que j'aime beaucoup et qui me fascine, parce qu'on comprend quand on est là-bas sur le bleu, le blanc, etc. Enfin, comment tellement de choses se sont passées dans ces endroits. Et puis, y a le fait que on est la mer, il y a cette espèce de côté, voilà, une existence et aussi une navigation. C'est pour ça que je reviens un peu sur la référence à Ulysse. On ne sait pas très bien où on va arriver finalement quand on part dans la vie. Voilà, on navigue. Et donc, évidemment, c'est la mer.
Et parfois en mer, on fait des mauvaises rencontres. Ulysse en a fait, Harry Yuan en a fait, Arbon, il en a fait aussi.
Pas trop.
Ça
non, moi je suis un homme très chanceux. J'ai fait peu de mauvaises rencontres. Je suis très conscient du privilège que j'ai d'avoir pu naviguer à peu près calme, sans coup dur, sans gros coup de tabac.
Est-ce qu'il y a un plaisir particulier à mélanger des éléments vrais et du faux en disant va falloir qu'il cherche tout? Par exemple, il y a un moment. Ils se promènent, Harry Yuan et le narrateur, donc Arbon, donc vous,
oui.
Sur une île. Ils vont dans une grotte qui a une importance mythologique. Elle existe vraiment, cette grotte, ou vous l'avez inventée pour donner de la puissance? En fait, un endroit où le bien et le mal se sont affrontés, parce que c'est aussi une trame du livre, c'est l'affrontement du bien et du mal.
Oui, cette grotte est à la fois réelle et imaginaire, comme beaucoup de choses dans ce livre, mais il y a vraiment une grotte dans une île des Cyclades.
Ça, je me doute.
Et il y a vraiment eu cet événement de massacre, en fait, qui s'est passé, effectivement, quand les Turcs ont pris le contrôle de la mer Égée et que les pirates français notamment essayaient de continuer à faire leurs petites affaires et de rançonner les bateaux de commerce turc. Donc il y a eu un massacre et effectivement il a bel et bien existé, et il explique pourquoi cette île était déserte.
Alors le narrateur, donc je le redis, s'appelle Arbon comme vous, il a chanté comme vous, il a été éditeur comme vous, il va à la rencontre de ce Harry Yuan. Je ne vais pas vous demander qui c'est en vrai, mais y a-t-il quelqu'un comme ça, ou peut-être plusieurs personnes, dont vous cherchiez aujourd'hui ce qu'elles sont devenues ?
Alors lui, lui, je cherche ce qu'il est devenu. C'est pas si fréquent comme ça qu'il y ait des gens qui disparaissent.
Mais il y a des gens qu'on
complètement.
Ne voit plus.
Non, il y a des gens qu'on ne voit plus. Mais lui, la particularité, c'est qu'il a disparu. J'allais dire corps et bien, puisqu'on parlait de la mer, mais parce que depuis 2006, cet homme. Voilà. Même sur Internet, vous pouvez faire toutes les recherches que vous voulez, vous ne trouvez plus rien, il n'y a plus aucune trace de lui. C'est très énigmatique. Et je pense que c'est quand même très rare aujourd'hui. Très rare de ne laisser aucune trace de soi, à moins de... Enfin, surtout quand on a vécu la vie qu'il a eue et qu'il a été très exposé, qu'il a fait des couvertures de magazines, qu'il a été multimilliardaire, etc. C'était pas non plus un homme, un ermite. Hein. C'était pas quelqu'un qui vivait caché. Donc, cette occultation complète, effectivement, était très intrigante. Très intrigante.
Dans ce livre, vous avez cité une phrase de Pythagore que je connaissais pas et que j'aime beaucoup. Alors, c'est celui de Pythagore du triangle, hein ?
Oui.
Le commencement est la moitié de tout.
La moitié du tout.
Du tout. Ah, pardon, ben voilà. Alors, du coup, c'est pas grave, ça tient quand même. Est-ce que c'est vrai aussi pour votre roman ?
Oui, pense que moi, je suis très sensible à ça. Je suis très sensible au commencement. Et s'il y a un bon commencement, je pense que ça. Tout le reste coule. L'exemple parfait pour ça, c'est Kafka. Quand vous lisez les romans de Kafka, tout est dit dans la première phrase. Et après, ça file. On avait sans doute calomnié Joseph Kass, car sans qu'il ait rien fait de mal, il fut arrêté un matin. Voilà. Tout le procès est là, et ensuite ça défile. Ou, un beau matin, Grégoire Samsa se réveilla transformé en une véritable vermine. La métamorphose. Voilà. Tout est dit dans la première phrase, et après, ça coule.
C'est comme ça que vous avez travaillé ? Vous avez attendu d'avoir un bon début ? Vous l'avez réécrit.
J'aurais bien aimé.
Alors moi j'ai une question, pourquoi vous ne vous êtes pas permis de commencer comme Kafka ? En une phrase, on dit tout, comme Maupassant aussi a ce talent de dire en deux phrases, oui. Il plante tout et c'est terminé.
Oui. Bah là j'ai essayé de planter tout en une page, voilà. Donc,
c'est pas mal.
c'est un autre temps. Ce livre vient quand même sur l'aventure du livre numérique auquel vous avez été acteur. Qu'est-ce qui explique que finalement ça n'a peut-être pas aussi bien marché qu'on l'imaginait ? Je quitte les rivages de votre livre, enfin pas vraiment.
Oui.
Mais plus ça pour pas, puisqu'on est dans une émission littéraire, pour parler du support, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui le livre est encore là et bien là ?
Parce que c'est quand même un objet extraordinaire. Moi, je suis très content. Enfin, dans mon idée, le livre numérique, ce n'était pas une substitution au livre papier. C'était un complément. Et par exemple, quand on part en vacances, enfin, Eric Orsena, qui a aussi travaillé un peu dans le livre numérique à cette époque, disait que voilà, comme il aimait beaucoup la mer, lui aussi, il faisait des croisières. Quand il partait pour un mois, plutôt que d'emporter une valise de bouquins, il lui prenait une tablette et puis il avait ses 15 ou 20 livres qu'il allait lire pendant sa croisière. Donc c'est ça, c'était explorer de nouvelles façons de rendre le livre accessible là où le papier ne fonctionne plus ou fonctionne moins bien. Par exemple aussi, lire la nuit. Lire la nuit sans allumer la lumière, sans réveiller son conjoint ou sa conjointe. Donc d'avoir des choses qui soient plus... Voilà, qui soient des occasions de lecture.
Vous restez un lecteur de livres papier ou justement
oui, oui.
Vous avez les deux ?
Non, moi je suis un lecteur de livres papier. Je suis un lecteur de livres papier.
Mire-le, toi ?
Alors moi, je lis en évitant d'embêter mon conjoint avec ma liseuse. C'est pour ça que ça m'a fait sourire quand voilà. Vous avez dit ça, pour ne pas le déranger. Effectivement, j'ai ma liseuse.
C'était un des principaux arguments de vente des liseuses.
De faire rester les couvres ensemble la nuit.
Disons d'éviter, voilà, pour la paix des ménages.
Et d'éviter les valises trop lourdes en vacances, si j'ai bien compris. Est-ce que vous y avez pris goût ? Est-ce que vous allez recommencer à écrire vous avez un deuxième roman en chantier ? Visiblement, vous avez aimé avoir des aventures successives dans votre vie, donc...
Ah oui, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Mais ça, c'est sûr que je ne me suis pas privé d'aventures successives. Donc, je commence celle de romancier. Elle n'est peut-être pas finie.
Il y a du vrai et du faux dans ce que vous dites, il faut trouver.
Il y a du vrai et du faux. Non, je pense que j'aimerais. Enfin, j'ai plusieurs idées pour un livre. Je m'attaque à un sujet un peu complexe et je veux trouver la bonne manière de l'aborder. Mais oui, je vais écrire.
Ben merci beaucoup, Arbondette. Il est 20h02. Je vous avais promis de vous libérer à 56. J'ai débordé de 6 minutes. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop.
Je ne vous en veux pas. Vous remercie au contraire. J'ai appris de m'avoir accueilli tous les deux.
Merci, moi j'avais encore des questions.
Vas-y, Marley, pardon.
Vous avez encore une minute.
Oui, j'ai
une minute, 4 secondes. Quelle a été la première impulsion pour écrire cet ouvrage que vous avez évoqué avec Christophe?
L'impulsion, c'était justement d'avoir le mystère que me posait le devenir de cet homme que j'ai connu, qui me paraissait, à travers l'histoire de cet homme, il y avait beaucoup de choses à dire. Il y avait aussi cette interrogation sur, finalement... Qu'est-ce que c'est que l'existence d'un homme comme ça et comment je vais pouvoir la raconter. Donc après, il y a eu le côté un peu ludique de se dire je vais raconter son histoire, voilà comment ça va se passer. Et je me suis en fait j'aime bien faire les choses en m'amusant et ça m'a amusé de développer cette intrigue et d'approcher ce mystère. Voilà. Ça m'a amusé.
Le roman existe en livre audio ?
Pas encore. Et non seulement il n'existe pas encore. Alors, je pourrais le lire, oui, si vous voulez. Mais
non, mais en vous écoutant, je réalise.
J'aimerais bien le lire, d'ailleurs, parce que j'ai fait aussi un peu de théâtre. Un peu de
vous avez chanté, en plus, donc vous savez placer votre voix.
Voilà. Bon. Mais... Non, mais il existe. Ce qui est assez drôle, c'est qu'il a eu du mal à exister en numérique. Il est distribué par Gallimard et pendant 3 semaines, tous les bouquins qui étaient distribués à la rentrée par Gallimard et qui devaient aller sur les plateformes de distribution numérique, ça n'a pas marché. Il y a eu une panne. Donc.
Ça arrive parfois même avec Gallimard, hein, même avec les meilleurs diffuseurs, hein, comme quoi. Hein.
Ben oui.
Eh bien, merci beaucoup Arbon. Cette fois-ci, on vous dit au revoir. Je redonne le titre de votre livre, Les derniers jours de Harry Yuan. C'est Au diable vauvert. Et je crois que c'est un roman qui peut plaire à un public de tout âge. Donc comme on approche de Noël, il est assez indiqué pour un cadeau.
En tout cas, c'est facile, je pense, effectivement, à lire à tout âge. Et ceux de mon âge auront un peu une idée de ce qui s'est passé dans le numérique depuis 30 ans. Et puis les plus jeunes le découvriront.
Merci beaucoup.
C'était Broadcast The Book Lover. Ça tombe bien pour un hors les murs consacré à la littérature.
Hiver et contre tout.
Une émission littéraire collaborative.
De 19h à 22h30.
À la cantine pas si loin. 34 rue Cartier-Bresson à Pantin.
Et sur le 93.9 FM.
Je voudrais en profiter pour remercier tous les gens qui étaient avec nous. Arbon, qui est l'auteur des derniers jours de Harry Yuan aux éditions Au Diable Vauvert. Johanna Luisen, Les Fragments d'Hélène chez Julliard. Et puis, il y avait aussi Julia Lepère pour son roman La mère et son double, qui a l'air passionnant, mais qui lui n'est pas encore sorti. Donc, il faut attendre encore un tout petit peu, n'est-ce pas, Mirleux ? Et le micro de Mirleux n'est toujours pas allumé. Donc, je crois qu'effectivement, il faut encore attendre un petit peu. Alors, donc, l'émission était présentée par Christophe et Mirleux, mais aussi Lucas. Merci Lucas. À la réalisation, il y avait Thomas. À l'organisation technique, il y avait Pierre. Et puis rien de tout ça n'aurait été possible sans Philippe, que nous remercions. Merci à toi. Bonne soirée à tous. On est encore à Pantin. L'émission continue après. Mais je laisse la parole à Mirleux.
Merci à Théo Frilet de sa présence. Merci. Et maintenant, on va écouter du côté des autrices avec l'épisode qui porte sur Elsa Triolet. On vous laisse avec ça. Bonne soirée.